Bien, bonjour. D'abord, je voudrais remercier Molly Przeworski de son invitation. Je suis vraiment ravi d'être là, de pouvoir venir donner ce cours ici. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la face cachée de la recombinaison, qu'on appelle d'un nom barbare conversion génique biaisée, donc bias gene conversion. Et donc, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça correspond et en quoi ce processus est un phénomène important pour comprendre l'évolution. Donc moi, dans mon labo, on s'intéresse à étudier l'évolution des génomes. Alors souvent, quand on va suivre un cours d'évolution, le prof nous présente des jolies images de la biodiversité et de les résultats splendides de l'évolution, mais nous, on regarde l'évolution vraiment à l'échelle moléculaire, à l'échelle des génomes, et l'évolution à l'échelle des génomes, ça se résume à deux choses, en fait, qui ne sont pas très romantiques. C'est que l'évolution, c'est le résultat, d'une part, de la mutation, donc qui introduit de la diversité génétique, qui introduit des nouveaux allèles dans les populations, et la fréquence de ces allèles. Donc initialement, quand une mutation se produit, elle se produit chez un individu, donc ce nouvel allèle a une fréquence très faible dans la population, c'est 1 sur 2 N, si N est la taille de la population. Mais la fréquence de ces allèles peut fluctuer au cours du temps, au fil des générations. Et donc l'évolution, c'est la conséquence de ces deux choses, la mutation et des changements de fréquence allélique. Donc, pour évoluer d'une population ancestrale qui était homogène pour un trait, donc là, cette population, elle est jaune, et puis un grand nombre de générations plus tard, la population descendante, elle est devenue rouge. Ça implique qu'à un moment donné, dans l'évolution, il s'est produit une mutation chez un individu qui a apporté ce nouvel allèle, l'allèle rouge. Et cet allèle, il a été transmis aux générations suivantes. Et progressivement, il a augmenté en fréquence dans la population jusqu'au point où il a remplacé l'allèle ancestral. Et donc, dans ce cas-là, on dit que cet allèle s'est fixé dans la population. Et donc, ce qu'on appelle une substitution, c'est une mutation qui s'est fixée dans la population. Et quand on réfléchit au processus qui peuvent amener à la fixation d'un nouvel allèle, eh bien, à quoi on pense immédiatement? Qu'est-ce qui fait qu'une mutation va se propager, va envahir la population? Ah ouais, donc première chose à laquelle on pense, c'est l'adaptation, la sélection, donc. Quoi d'autre? Et le hasard. Ouais, alors moi j'ai mis le hasard en premier, donc la dérive génétique aléatoire et la sélection. Donc la dérive génétique aléatoire, c'est simplement qu'à chaque génération, par des effets stochastiques, les fréquences alléliques peuvent changer et ça peut aboutir au fait qu'un allèle va se fixer dans la population. Donc ça, c'est la dérive génétique aléatoire. Et puis la sélection, c'est le fait qu'il y a certains allèles qui sont avantageux, c'est-à-dire qui augmentent la probabilité de contribuer à la génération suivante. Donc, dans un cours standard d'évolution, la plupart des profs, des enseignants s'arrêteront là. Ils vont vous parler de la sélection et de la dérive. Mais en fait, il y a d'autres processus qui peuvent contribuer à la fixation de mutations. Et l'un de ces processus, c'est la conversion génique biaisée dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la conversion génique biaisée? Eh bien, c'est un processus qui est directement associé à la recombinaison. C'est pour ça que je suis là dans ce cours, parce que c'est effectivement un phénomène qui est associé à la recombinaison. Donc la recombinaison, c'est le fait que donc chez les eucaryotes, au cours de la méiose, il y a des processus d'échange génétique entre le chromosome paternel et maternel. Et ces processus d'échange génétique qui peuvent aboutir à des crossovers, donc avec échange des bras de part et d'autre du point de recombinaison, ou bien ils peuvent être réparés sans aboutir à des crossovers. On appelle ça des non-crossovers. Mais dans les deux cas, ces mécanismes-là sont associés à ce qu'on appelle la conversion génique, c'est-à-dire le transfert unidirectionnel d'informations génétiques depuis un chromosome vers l'autre. Donc là, dans cette zone-là, que j'ai représentée par le carré, vous voyez, le chromosome rouge, il a été remplacé par le chromosome bleu. Et là, pareil, le chromosome rouge a été remplacé par la version bleue. Et donc, typiquement, la taille de ces zones de conversion, c'est de l'ordre de quelques paires de bases jusqu'à quelques kilobases. Et donc, la conversion génique, ça aboutit à de la transmission non mendélienne. Donc, normalement, ce que nous disent les lois de Mendel, c'est qu'un individu qui est hétérozygote, eh bien, dans son pool de gamètes, il va transmettre autant de copies de l'allèle rouge que de l'allèle bleu. Mais là, vous voyez, au niveau de la zone de conversion, eh bien, en fait, on a transmission de 2 copies de l'allèle bleu et 0 copie de l'allèle rouge. Donc là, on est dans un système de transmission non mendélien. Alors, ce qui est représenté ici sur cette figure, c'est le résultat d'un événement de recombinaison dans une cellule méiotique. Maintenant, si vous considérez une population de cellules méiotiques, dans certaines autres cellules, ça sera le bleu qui aura été converti par le rouge. Donc au final, s'il y a autant de conversion de rouge vers bleu que de bleu vers rouge, dans le pool de gamètes, on a quand même transmission mendélienne. Mais si un des deux allèles a une probabilité plus forte d'être le donneur, alors ça aboutit à ce qu'on appelle la conversion génique biaisée. Donc la conversion génique biaisée, c'est lorsque un des deux allèles, le rouge ou le bleu, a une probabilité plus forte d'être le donneur dans le cas où il y a de la conversion. Et donc, si un locus est soumis à ce phénomène de conversion génique biaisée, la conséquence, c'est que l'allèle donneur, il va être plus fréquemment transmis, et donc il va être plus abondant dans le pool de gamètes, et donc ça va augmenter sa probabilité d'être transmis à la génération suivante. Et du coup, ça va augmenter sa probabilité qu'il se fixe dans la population. Donc, la conversion génique biaisée, c'est un processus qui ressemble à de la sélection, dans le sens où vous avez un allèle qui a une probabilité plus forte que l'autre d'être transmis à la génération suivante. Donc ça, ça ressemble à de la sélection, mais c'est un processus qui est non adaptatif. Alors pourquoi je dis non adaptatif ? Parce que dans ce que je vous ai présenté ici, je ne vous ai absolument rien dit sur la valeur sélective d'avoir l'allèle bleu ou l'allèle rouge. Donc, je n'ai pas du tout parlé de l'impact d'avoir tel ou tel allèle sur la fitness, sur le succès reproducteur des individus. Là, je parle uniquement du fait que, voilà, au cours de la conversion, un des deux allèles a une probabilité plus forte d'être le donneur. Donc c'est un processus non adaptatif qui ressemble à la sélection. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est que là, je ne suis pas en train de parler d'un effet mutagène de la recombinaison. On sait par ailleurs que le processus de recombinaison en lui-même peut provoquer des mutations. Mais là, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je vous dis, voilà, vous avez des allèles qui existent déjà dans la population, et chez un individu qui est hétérozygote, si ces allèles se retrouvent impliqués dans un événement de recombinaison, le biais de conversion génique va favoriser la transmission de l'allèle donneur, et donc ça va affecter les fréquences alléliques dans les populations. Alors, ce processus, la conversion génique biaisée, c'est quelque chose qui en fait est connu depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de travaux théoriques, notamment dans les années 80. Il y a une littérature abondante là-dessus. Mais ça fait seulement, disons, une dizaine d'années qu'on commence à comprendre, avoir une idée précise des mécanismes moléculaires qui peuvent engendrer de la conversion biaisée. Alors, le premier mécanisme qui peut générer un biais de conversion est lié à l'étape d'initiation de la recombinaison. Donc, comme vous avez dû l'entendre dans les cours précédents, la recombinaison elle est initiée par la formation de cassures double brin, hein, qui sont le résultat de l'activité d'une endonucléase, SPO11, qui est exprimée précisément au début de la méiose. Donc SPO11 introduit des cassures double brin, et le chromosome qui est cassé va être réparé en utilisant le chromosome homologue comme matrice. Donc cette réparation, elle peut être associée à un crossover ou un non-crossover, mais du coup ça aboutit à la conversion du chromosome qui a été cassé par le chromosome intact. Hein, donc là, la cassure, elle a eu lieu sur le chromosome rouge, donc c'est le chromosome bleu qui va être le donneur au niveau du point de cassure. Donc on a conversion du chromosome cassé par le chromosome intact. Donc ça, encore une fois, c'est le produit d'un événement de recombinaison dans une cellule méiotique. Maintenant, dans la population de cellules, il y a d'autres... Il y a d'autres cellules chez lesquelles la cassure double brin se passera sur le chromosome bleu, et dans ce cas-là, ben, c'est le chromosome bleu qui sera converti par le rouge. Donc si, dans la population, les cassures double brin se produisent aussi fréquemment sur le chromosome bleu que sur le chromosome rouge, au final, on a bien transmission mendélienne, il n'y a pas de biais, pas de problème. Par contre, s'il y a une mutation sur le chromosome bleu qui fait que ce chromosome devient moins favorable à la formation de cassure double brin, donc ce chromosome devient résistant à la cassure double brin, donc je vais parler d'un allèle froid, puisqu'il initie moins souvent la recombinaison. Donc si on a comme ça du polymorphisme avec voilà, des chromosomes qui ont un allèle froid et puis des chromosomes rouges qui ont un allèle chaud, ben, ça veut dire que les cassures double brin se produiront beaucoup plus souvent sur le chromosome rouge que sur le chromosome bleu. Hein. Et du coup, on aura beaucoup plus souvent conversion de l'haplotype chaud, de l'allèle chaud par l'allèle froid que l'inverse. Hein. Donc, on va avoir beaucoup plus fréquemment conversion en faveur de l'allèle bleu plutôt qu'en faveur de l'allèle rouge. Et donc ça induit donc un biais de conversion en faveur de l'allèle froid, hein, et qu'on appelle DBGC pour biais de conversion génique médié par les cassures double brin, hein, donc DSB driven bias gene conversion. Donc ça c'est un premier type de biais, un premier mécanisme qui peut engendrer un biais de conversion génique. Et le deuxième mécanisme est lié à un phénomène de réparation des mésépariments qui peuvent se produire lors de la recombinaison. Parce que la recombinaison implique la formation de ce qu'on appelle des hétéroduplexes. Hein, donc c'est un ADN double brin dans lequel on a un des brins qui provient du chromosome maternel et l'autre brin qui vient du chromosome paternel. Et donc, si notre individu est hétérozygote, eh bien, au niveau de cet hétéroduplex, on va avoir un mésappariement. Et lorsqu'on a un mésappariement avec, par exemple, un T en face d'un G, eh bien, ce qui a été constaté, c'est que chez certaines espèces, eh bien, donc ce mésappariement, il va être réparé. Hein, et donc, il peut être réparé soit en faveur de l'allèle AT, soit en faveur de l'allèle GC. Et ce qui a été constaté, c'est que chez certaines espèces, eh bien, ces mésappariements sont préférentiellement réparés en faveur de l'allèle GC. Et du coup, ça aboutit à un biais de conversion génique qui favorise les allèles GC par rapport aux allèles AT. Et donc ce phénomène-là, on l'appelle le GBGC pour GC Bias Gene Conversion. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir à cette étape-là, c'est qu'il y a deux types de conversion génique biaisée qui sont connus à ce jour. Le premier, qui est lié à un biais dans l'initiation de la recombinaison, hein, et qui favorise les allèles froids, donc ceux qui ont moins d'activité de recombinaison par rapport aux allèles chauds. Et donc, c'est ce processus-là qui explique ce qu'on appelle le paradoxe des points chauds de recombinaison, dont vous avez déjà entendu parler. C'est ça qui explique l'évolution rapide des points chauds de recombinaison PRDM9 dépendants. Au passage, c'est le même phénomène qui est mis en œuvre dans les techniques de forçage génique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, hein, donc médié par le système CRISPR-Cas9. Hein, donc c'est exactement le même processus qui est exploité pour introduire un gène dans une population. Donc ça, c'est le premier type de BGC, le DBGC, et le deuxième type, qui est lié à un biais de réparation des mésappariements et qui, lui, favorise les allèles GC par rapport aux allèles AT. Hein? Et donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce processus-là de GBGC. Donc, est-ce que j'ai été clair sur ce que c'est que le BGC? Ça va, hein. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Vaut mieux poser des questions au début que d'être perdu tout le long de l'exposé. Alors, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, c'est uniquement de la théorie. Quelles sont les preuves qu'on a de l'existence de ce phénomène? Alors, on a différents éléments de preuve. Le premier, il vient de l'analyse de produits de recombinaison. Donc là, je vais vous parler de travaux qui n'ont pas été faits dans mon laboratoire. Hein. Je vais citer les auteurs, mais ce n'est pas mon travail. Donc, différents labos ont mené des études où ils ont analysé des produits de recombinaison, donc des produits de méiose, et ils ont regardé spécifiquement des sites qui sont hétérozygotes, avec du polymorphisme de type GC versus AT, et qui sont impliqués dans des tracts de conversion lors de la méiose. Alors, la première étude de ce type, elle a été publiée par Mancera et collaborateurs en 2008. Ils ont analysé plus de 7000 produits de recombinaison chez la levure. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que eh bien, dans ces 7000 et quelques événements de conversion impliquant des sites hétérozygotes GC-AT, eh bien, l'allèle GC était transmis dans 50,7% des cas, alors que l'allèle AT était transmis dans seulement 49,3% des cas. Et ça, c'est significativement différent de ce qu'on attend, le 50-50, hein, qui est prédit par les lois de Mendel. Hein, donc là, ça démontre qu'il y a une déviation significative par rapport aux lois de Mendel. Alors, cette déviation, elle ne vous paraît pas forcément très spectaculaire, hein, on est à 50,7% au lieu de 50, mais à l'échelle de la population, une petite déviation comme ça, ça peut déjà avoir des conséquences très très fortes sur la probabilité de fixation des allèles. Donc ça, c'est chez la levure. Un groupe suédois a étudié des événements de conversion associés aux événements de recombinaison de type non-crossover hein, chez cet oiseau, comme elle s'appelle, le gobe-mouche. Et là, ce qu'ils ont constaté, c'est que, donc là, ils ont analysé un peu plus de 200 événements de conversion, et ils ont observé un biais beaucoup plus marqué, avec 59% de transmission des allèles GC par rapport à 41% de transmission de AT. Et le labo de Molly a étudié des événements de conversion, cette fois-ci chez l'homme. Hein, et donc, ils ont analysé... alors, il y a eu un autre groupe islandais qui a aussi mené une étude similaire. Et au total, ils ont analysé plus de 2000 événements de recombinaison. Eh bien, chez l'homme, lorsqu'un site polymorphe de type GCAT est impliqué dans un événement de conversion, eh bien, dans 68% des cas, c'est l'allèle GC qui est transmis, et seulement dans 32% des cas, l'allèle AT. Donc là, vous voyez, on a une très très forte déviation par rapport à l'attendu de la ségrégation mendélienne. Donc ça, c'est voilà, une première démonstration directe, hein, basée sur des observations, que les allèles GC, lorsqu'un site hétérozygote GC-AT est impliqué dans un événement de recombinaison, eh bien, il y a transmission préférentielle de l'allèle GC. Alors, d'accord, ça a été observé. Maintenant, quel est l'impact de ce phénomène-là sur l'évolution des génomes. Eh bien, la conséquence, c'est que ce processus va affecter l'évolution de la composition en base des génomes, puisque ce que je vous ai dit, c'est que quand on a un polymorphisme de type GC versus AT, le GBGC va favoriser la transmission de l'allèle GC, et donc ça va augmenter au final le taux de substitution de type AT vers GC. Et la composition en base d'un génome, hein, la fréquence des bases GC versus AT, eh bien, ça dépend de l'équilibre entre le taux de substitution de AT vers GC, que je note grand U, versus le taux de substitution de GC vers AT, que on note grand V. Et en fait, à l'équilibre de ces processus, le taux de la composition en base qui est attendue, ça correspond simplement à ce ratio grand U sur grand U plus grand V. Donc ce taux de GC à l'équilibre, je vais le noter GC étoile. Juste un petit détail de notation, des fois je vais parler de GC et AT, d'autres fois je vais parler de S et W. En fait, S ça veut dire strong et ça désigne les bases G ou C, et W ça veut dire weak et ça désigne les bases A ou T. Donc voilà, donc la composition en base d'un génome, hein, à l'équilibre, eh bien, ça dépend du ratio de ces deux taux de substitution. U, c'est AT vers GC, V, c'est GC vers AT. Et ces taux de substitution, eux-mêmes, de quoi ils dépendent? Ils dépendent de deux choses. Ils dépendent du taux de mutation et puis de la probabilité que chaque mutation se fixe. D'accord? Donc le taux de substitution, c'est le produit de ces deux paramètres, hein, le taux de mutation, la fréquence à laquelle les mutations se produisent dans la lignée germinale, et puis, sachant qu'une mutation s'est produite, eh bien, quelle va être sa probabilité de se fixer dans la population. Et donc, je vais introduire une deuxième notion ici, c'est ce que j'appelle l'équilibre mutationnel, c'est-à-dire que si on suppose qu'il n'y a ni sélection ni BGC, hein, n'est pas de biais de conversion, pas de sélection, ben du coup la probabilité de fixation des mutations weak strong, donc ça veut dire AT vers GC, ça va être la même que la probabilité de fixation des mutations strong weak, hein, dans l'autre sens, d'accord. S'il n'y a pas de sélection, s'il n'y a pas de BGC, toutes les mutations ont la même probabilité de se fixer. Donc du coup, si on calcule si on fait le ratio grand U sur grand V, ben vous voyez, le petit p, là, il s'enlève, et du coup, on se retrouve avec un équilibre qui dépend uniquement des taux de mutation, hein, et donc que je vais appeler l'équilibre mutationnel. Donc ça, c'est la composition en base vers laquelle les génomes évolueraient s'il n'y avait pas de sélection et pas de BGC. Donc, le BGC... Le GBGC, sa conséquence, c'est qu'il va affecter la probabilité de fixation des mutations weak strong, donc GC vers AT, par rapport aux mutations strong weak. Et la force de ce phénomène, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend d'abord donc, de ce biais de transmission, hein, que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, donc le biais dans la réparation des mésappariements qui fait que on transmet plus ou moins un allèle par rapport à l'autre. Donc ce paramètre, je le note petit b. Il dépend également de la probabilité pour un site donné d'être impliqué dans un événement de conversion. Et donc la probabilité d'être impliqué dans un événement de conversion, ça dépend de deux choses. Ça dépend du taux de recombinaison et puis ça dépend de la longueur des tracts de conversion. Donc le taux de conversion génique, ben c'est le produit du taux de recombinaison par paire de bases par méiose multiplié par la longueur du tract de conversion en paire de bases. Et le troisième paramètre important qui va influer sur la force de ce processus évolutif, c'est la taille efficace des populations, qu'on note NE. Et ça, c'est pour la même raison que l'efficacité dépend également de la taille efficace, c'est-à-dire que dans les espèces chez lesquelles la taille efficace est faible, eh bien les effets stochastiques de la dérive sont forts, et vont l'emporter sur les effets déterministes du GBGC. Donc c'est exactement la sélection de la même façon. Si la taille efficace est faible, les effets stochastiques de fluctuation des fréquences alléliques à chaque génération vont l'emporter sur les effets de la sélection ou du BGC. Donc Nagy Laki, dans les années 80, a dérivé les équations qui permettent de calculer la probabilité de fixation d'un allèle en fonction de ces différents paramètres. Je vous passe le détail. Ce qui est important de retenir, c'est que le paramètre important, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le coefficient de BGC à l'échelle des populations, que je note grand B, qui est égal à 4 fois NE, la taille efficace, fois petit g, qui est le taux de conversion génétique, fois petit b, qui est le biais de transmission. Et donc, quand ce paramètre est petit par rapport à 1, eh bien, c'est la dérive génétique aléatoire qui l'emporte. Donc, on est dans un cas d'évolution neutre, on va dire. Lorsque ce paramètre est très supérieur à 1, donc il y a un effet très fort du BGC sur l'évolution des génomes. Et puis, ben, si on est proche de 1, ben, on est dans la zone intermédiaire où il y a des effets qui sont visibles dans le polymorphisme, dans le spectre de... dans la diversité, mais ça n'a pas un impact très très fort. Alors, pour vous donner une idée un petit peu plus concrète de comment ça se traduit, ces valeurs de grand B, ce que j'ai représenté ici, c'est la composition à l'équilibre du génome, hein, le taux de GC à l'équilibre du génome, en fonction de la valeur de grand B. Donc, dans une espèce chez laquelle l'équilibre mutationnel est à 33%. Donc ça typiquement, ça correspond à l'espèce humaine. Hein. Chez l'homme, c'est le cas. L'équilibre mutationnel, il est à 33%. Et donc, vous voyez qu'avec une valeur de grand B qui est au-delà de 3, ben, vous voyez que la composition en base, elle monte à 90% de GC. Donc, une composition extrême, hein, pour... des valeurs de grand B qui dépassent 3. Alors, là encore, hein, tout ce que je vous ai montré, c'est de la théorie. En pratique, est-ce qu'on voit des effets sensibles du GBGC sur l'évolution des génomes? Et donc là, je vais présenter des résultats d'analyse qu'on a conduites chez les mammifères. Alors, ce qu'on sait depuis longtemps des génomes de mammifères, c'est que la composition en base est très variable le long des chromosomes. Ce qui est représenté ici, c'est un chromosome, le chromosome 14 humain, et l'axe des Y représente le taux de GC mesuré sur des fenêtres de 20 kilobases. Et donc vous voyez que le long de ce chromosome, qui doit faire à peu près une trentaine de mégabases, donc la ligne rouge, ça correspond au taux de GC, à la composition, au taux de GC moyen le long du génome. Donc vous voyez que vous avez des régions qui ont un taux de GC plus fort que la moyenne, avec une très forte hétérogénéité, et puis des régions qui ont un taux de GC plus bas que la moyenne et qui sont relativement plus homogènes. Donc on a des variations de taux de GC le long des chromosomes. Alors à l'époque, Bernardi, qui travaillait à l'Institut Jacques Monod, ici à Paris, avait appelé ces régions des isochores. Donc voilà, donc ça c'est une observation. Et ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'également le taux de recombinaison varie fortement le long des chromosomes. Donc là encore, je vous représente l'axe des Y, cette fois-ci c'est le taux de recombinaison le long du chromosome 3 chez l'homme. Et là, la recombinaison est mesurée sur des grandes échelles, à l'échelle du mégabase. Et donc, vous voyez que vous avez des variations de taux de recombinaison le long du chromosome. Et en fait, si on zoome, si on regarde de plus près, ce qu'on voit, c'est que, en fait, on a, alors vous avez déjà beaucoup entendu parler, des points chauds de recombinaison, hein, des hotspots. Et donc, ce qui explique les variations de taux de recombinaison qu'on observe à l'échelle des mégabases, c'est des différences de densité et d'intensité de points chauds de recombinaison. Donc, Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que ces points chauds de recombinaison, eh bien, leur position dans le génome, elle évolue rapidement. Hein. Ça a déjà été mentionné, hein, il n'y a pas de conservation sur la position des points chauds de recombinaison entre l'homme et le chimpanzé, donc ça, c'est, notamment, ça a été montré par l'équipe de Molly. Nous, on avait montré que même à l'échelle de l'espèce humaine, entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, il n'y a pas de conservation de la position des points chauds de recombinaison. Donc, les points chauds de recombinaison, leur position dans le génome, elle évolue très rapidement. Alors, pour tester, est-ce que le BGC a un impact sur l'évolution des génomes de mammifères ? Eh bien, ce à quoi on s'attend, c'est que donc, le BGC il va favoriser les substitutions vers GC. Et donc, dans les régions où le taux de recombinaison est élevé, bah, du coup, le taux de conversion va être élevé. Donc, on devrait avoir un taux de GC élevé. Donc, la prédiction, c'est qu'on s'attend à avoir une corrélation positive entre le taux de recombinaison et l'évolution du taux de GC des génomes. Et donc, pour tester cette prédiction, ben, ce qu'on peut faire, c'est analyser les patrons de substitution au cours de l'évolution. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend trois espèces, hein, donc deux espèces focales et puis un groupe externe. On aligne les génomes et puis on mesure les taux de substitution de A vers C, de A vers T, de A vers G, enfin, tous les taux de substitution dans une branche donnée de la phylogénie, hein, par exemple ici le long de cette espèce-là. Et donc ça nous permet de calculer les taux de substitution, les grands U et grands V que je vous avais présentés tout à l'heure, et donc calculer le taux de GC d'équilibre, le GC étoile. Alors, une première illustration de ce type d'analyse, on a regardé les patrons de substitution à proximité des points chauds de recombinaison. Et pour ça, on s'est intéressé à des sous-espèces de souris, Mus musculus domesticus et Mus musculus castaneus. Donc ces deux sous-espèces ont divergé il y a moins d'un million d'années, hein, et elles sont très très proches, hein, plus de 99% d'identité au niveau nucléique. Et elles sont encore interfertiles. Par contre, la position des points chauds de recombinaison est totalement différente entre ces deux sous-espèces. Et donc, on a analysé les patrons de substitution le long de ces deux branches de la phylogénie, hein, donc Domesticus et Castaneus, en utilisant une autre souris, Spretus, comme groupe externe. Et donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a pris tous les points chauds de recombinaison qui sont actifs chez Domesticus. Donc on a un peu plus de 3000 points chauds de recombinaison. Et on a regardé, mesuré le taux de GC à l'équilibre moyen en fonction de la distance au centre des points chauds de recombinaison. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les patrons de substitution et dans des fenêtres à différentes positions par rapport au centre des points chauds de recombinaison. Et donc, ce qui est représenté en rouge, c'est le taux de GC à l'équilibre correspondant au patron de substitution dans la branche de Domesticus, là, la branche en rouge. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au centre du point chaud de recombinaison, on observe que les patrons de substitution sont biaisés vers GC. Donc, on a une augmentation du taux de substitution vers GC pile au centre du point chaud de recombinaison. Maintenant, si on regarde exactement les mêmes locus, mais on regarde le patron de substitution dans la branche Castaneus, ben là, on a le profil qui est en vert, qui est parfaitement plat. Donc, à ces mêmes positions, où la séquence est quasiment identique, mais là, dans la branche de Castaneus, il ne se passe rien. Et si on fait l'expérience complémentaire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va prendre les positions qui correspondent à des points chauds de recombinaison chez Castaneus, eh bien, on voit que les substitutions qui sont produites dans la branche de Castaneus, eh bien, on a un excès de substitution vers GC précisément au centre du hotspot. Et aux mêmes positions, chez Domesticus, il ne se passe absolument rien. Donc on a une augmentation du taux de substitution vers GC précisément au milieu du hotspot, hein, et spécifiquement dans la branche évolutive où le hotspot est actif. Donc ça, c'est, voilà, c'est exactement ce à quoi on s'attend, hein, sous le modèle de GBGC, c'est que ben, là où les points chauds de recombinaison sont actifs, eh bien, on a le GBGC va favoriser les substitutions vers GC. Donc là, je vous ai présenté, donc ça, vous voyez, l'échelle, là, on est, ça correspond à 2 kilobases, là, hein, donc 2000 paires de bases, donc c'est vraiment une échelle très fine au centre du hotspot. Mais ce que je vous ai dit également, c'est que la position des points chauds de recombinaison, elle évolue rapidement, ce qui fait que sur le long terme, en fait, le GBGC va affecter une grande fraction du génome. Et donc, si on regarde à plus grande échelle spatiale, donc là, je vais regarder la relation entre taux de GC et taux de recombinaison carrément à l'échelle des chromosomes humains, et bien, ce qu'on voit, c'est que ben, là encore, donc, ce qui est représenté sur l'axe des X, donc chaque point, c'est un bras chromosomique. Sur l'axe des X, c'est le taux de recombinaison de ce bras chromosomique. Et sur l'axe des Y, le taux de GC à l'équilibre, qu'on a inféré en analysant le patron de substitution depuis la divergence entre chimpanzés et sapiens. Et donc, vous voyez, une très forte corrélation entre l'évolution du taux de GC des chromosomes et le taux de recombinaison de ces chromosomes. Donc ça nous montre bien que, effectivement, la recombinaison détermine l'évolution de la composition en base des génomes. Alors, on a cherché à quantifier la force de ce processus dans les populations humaines. Et ça, on peut le faire grâce à l'analyse de données de polymorphisme. Donc, il y a le projet, par exemple, le projet 1000 génomes qui a séquencé les génomes de plus de 2500 individus répartis un peu partout sur la planète. Et donc, on a utilisé ces données-là pour analyser le polymorphisme. Et donc, ce que nous fournit ce jeu de données, c'est je crois qu'il y a plus de 70 millions de SNPs de positions polymorphes qui ont été identifiées dans ce projet-là. Et pour chaque position polymorphe, on a la fréquence de chacun des allèles dans la population humaine. Et par ailleurs, lorsque à une position donnée, on a deux allèles, on observe deux allèles dans la population humaine, en comparant avec la séquence de groupes externes, donc chimpanzés, orang-outans ou macaques, on peut déterminer lequel des allèles de ces deux allèles est l'allèle ancestral et lequel est l'allèle dérivé. D'accord ? Et du coup, on peut calculer ce qu'on appelle un spectre de fréquence allélique, ce qui correspond en fait à la distribution de la fréquence des allèles dérivés. Et donc, on peut faire ça séparément pour les allèles correspondant à des mutations weak-strong, hein, donc, qui sont représentées ici en noir, ou des allèles correspondant à des mutations strong-weak, qui sont représentées en blanc. Hein, donc, ce que montre ce spectre, hein, c'est que ben, pour la plupart des positions polymorphes, en fait, l'allèle dérivé est présent à faible fréquence dans la population, et puis vous avez un petit nombre de positions polymorphes pour lesquels l'allèle dérivé s'égrège à plus haute fréquence dans la population. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est comparer ces spectres de fréquence allélique dans des régions où le taux de recombinaison est faible ou des régions du génome où le taux de recombinaison est élevé. Alors là où le taux de recombinaison est faible, eh bien, vous voyez que les deux distributions, la noire et la blanche, là, elles sont parfaitement superposées, hein, il n'y a pas de différence entre les deux. Par contre, dans les régions où le taux de recombinaison est fort, vous voyez, il y a un décalage entre les deux distributions avec les mutations strong-weak, donc un GC vers AT, qui s'égrège à plus faible fréquence que les mutations weak-strong qui sont représentées en noir. Hein, donc il y a un décalage de fréquence allélique entre les mutations vers GC par rapport aux mutations vers AT. Donc ça, c'est précisément ce qu'on attend, hein, du processus de GBGC qui favorise la transmission des allèles GC, donc qui augmentent leur probabilité de monter en fréquence dans la population. Donc ça, voilà, ça nous dit que les mutations vers GC ont une plus forte probabilité de fixation que les mutations vers AT. Et une autre façon de regarder ça, c'est de regarder donc, la fréquence moyenne des allèles dérivés en fonction du taux de recombinaison dans le génome. Donc en bleu pour les mutations vers GC et en rouge pour les mutations vers AT. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans les régions où le taux de recombinaison est très faible, eh bien, les deux types de mutations ont la même fréquence allélique. Donc ça, c'est bien ce à quoi on s'attend. S'il n'y a pas de recombinaison, ben, il n'y a pas de BGC. Donc tous les allèles ont la même probabilité de se fixer. Par contre, dans les régions du génome où le taux de recombinaison est très fort, ben, vous voyez que les allèles vers GC, weak strong, eh bien, ils ont une fréquence allélique beaucoup plus élevée que les allèles vers AT, strong weak. Donc ça, ça nous montre que ouais, la recombinaison favorise la montée en fréquence des allèles GC dans la population. Alors, Sylvain Glemin, avec qui je collabore, a développé un modèle qui, à partir de ces spectres de fréquence allélique, permet d'estimer les paramètres de BGC. Donc, le paramètre grand B, hein, donc, je vous ai expliqué, c'est le coefficient de BGC à l'échelle populationnelle. Hein, et son modèle permet également d'estimer en même temps le biais mutationnel, donc l'équilibre mutationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, on a utilisé cette méthode sur le génome humain en mesurant l'intensité du BGC dans des fenêtres de 1 mégabase en séparant les hotspots versus le reste du génome. Et ce qu'on voit, c'est que en dehors des hotspots, la valeur de grand B est de l'ordre de 0,2. Donc, on est dans le cas où c'est faible. Par contre, à l'intérieur des hotspots, on a des valeurs de grand B qui, en moyenne, valent 3. Donc, un très fort GBGC à l'intérieur des points chauds de recombinaison. Alors, est-ce que ces paramètres sont cohérents avec ce à quoi on s'attend, compte tenu des informations dont on dispose? Alors, ce qu'on sait, c'est que le taux de conversion associé à la fois au crossover et au non-crossover dans le génome humain, c'est de l'ordre de 10-5 conversions par paire de bases par méiose. Hein, donc ça, c'est l'analyse des produits de recombinaison qui a permis de quantifier ça. Le biais de transmission, le petit b, eh bien, il a été estimé grâce aux travaux de Molly à 0,36. Et puis, la taille efficace des populations dans notre espèce, elle est de l'ordre de 10 à 20 000. Et donc, ça nous prédit une valeur de grand B qui est de l'ordre de 0,15 à 0,30. Et ce que nous, on a mesuré ce qu'on a estimé à partir des spectres de fréquence allélique, ça nous dit un grand B qui est de 0,4. Donc vous voyez qu'en termes d'ordre de grandeur, on est effectivement proche de ce à quoi on s'attend, donc c'est assez cohérent. Alors, quel est l'impact d'un grand B de cette intensité sur l'évolution du génome? Je vous ai remis ici la relation entre la composition en base à l'équilibre et la valeur de grand B, hein, donc ce qui est prédit par les modèles. Donc, en dehors des hotspots, je vous ai dit, l'estimation qu'on a de grand B, c'est 0,2. Et donc, l'équilibre qui est attendu, c'est seulement 0,38. Donc, on est proche de l'équilibre mutationnel. Donc, en dehors des hotspots, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, à l'intérieur des hotspots, je vous ai dit, le grand B moyen, il vaut 3. Ça veut dire que l'équilibre mutationnel qui est attendu, c'est de 0,9, donc 90% de GC. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur des points chauds de recombinaison, eh bien, le génome est en train d'évoluer vers une composition en base extrême à plus de 90%. Alors, le taux de GC global de notre génome, c'est seulement 40%. Hein, alors, 90%, ça peut paraître extrême. Mais en fait, on observe des valeurs de ce type-là dans notre génome. Et on le voit bien quand on regarde le taux de GC en position 3 des codons. hein, donc sur les positions synonymes des régions codantes. Ce qui est représenté ici, c'est la distribution du taux de GC en position 3 des codons. Hein, vous voyez qu'il y a une très forte variance, hein, sur l'ensemble des 20 000 gènes humains, 19 000 gènes humains. Donc vous voyez qu'il y a une variance très forte, hein, ça va de 0,2 jusqu'à pratiquement, enfin, de 20% de GC jusqu'à pratiquement 100% de GC. Donc vous voyez que vous avez une fraction substantielle des gènes humains pour lesquels le taux de GC en position 3 des codons dépasse 80%. Et alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais Fanny Pouillet, qui travaillait dans notre équipe, a montré que chez l'homme, la composition en base, l'usage des codons est directement la conséquence du phénomène de GBGC. Donc, premier message que je voudrais faire passer, c'est que le GBGC, c'est un processus non adaptatif qui peut avoir un impact très fort sur l'évolution de la composition en base des génomes. Et du fait que la position des points chauds de recombinaison évolue rapidement, on a des processus de substitution qui sont très hétérogènes, à la fois dans l'espace et dans le temps. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau des points chauds de recombinaison, pendant la période de temps où ils sont actifs, on va avoir une accumulation très rapide de substitution vers GC. Donc des épisodes courts de GBGC très forts dans les hotspots qui conduisent à une augmentation rapide du taux de GC pendant la durée de vie du hotspot. Et ensuite, une fois que le hotspot a bougé, qu'il est parti ailleurs, on a une décroissance lente du taux de GC. Et donc, ces paysages génomiques particuliers qu'on observait chez les mammifères, les isochores, sont la conséquence directe du GBGC qui se produit dans un paysage de recombinaison hétérogène. Ok, donc ça c'est le premier message. Et là vous allez me dire, qui s'en fiche de la composition en base du génome? Le taux de GC, qui est-ce que ça intéresse? Alors, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'intéresser à ce mécanisme? Alors, premièrement, il y a des conséquences pratiques. Et les conséquences pratiques, c'est que du fait de ce phénomène, les processus de substitution sont très hétérogènes, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et ça pose des problèmes lorsqu'on veut faire de la reconstruction phylogénétique. Hein, donc, en phylogénie moléculaire, on utilise très couramment les séquences pour reconstruire l'histoire des espèces. Lorsque les gènes sont soumis au GBGC, ça fait des gros problèmes dans l'inférence de la phylogénie. Et donc, il a été montré qu'il vaut mieux utiliser des gènes pauvres en GC comme marqueur phylogénétique pour éviter ces problèmes-là. Un autre problème qui me paraît un peu plus important, c'est que le GBGC, c'est un processus qui ressemble vraiment à de la sélection, hein, dans le sens où, vous voyez, on a les ALGC qui ont une probabilité plus forte de se fixer, mais c'est un processus non adaptatif. Et donc, en fait, ça peut confondre beaucoup de tests qui sont couramment utilisés pour détecter des signatures de sélection dans les génomes. Hein, donc, souvent, on est intéressé d'identifier quels sont les loci dans le génome qui ont permis qui ont contribué à l'adaptation. Et donc, il y a toute une batterie de tests qui ont été proposés pour détecter les loci impliqués dans l'adaptation. Et bien, ces tests-là, ils sont sensibles au GBGC et souvent, il peut y avoir confusion entre sélection et GBGC. Et donc, il faut prendre en compte le GBGC si on veut être capable de détecter la sélection. Ça peut biaiser aussi les inférences démographiques. Hein, lorsqu'on veut essayer de reconstruire l'histoire des populations, l'histoire démographique des populations à partir du polymorphisme, le GBGC peut biaiser les analyses. Et puis, je vais passer un peu là-dessus. Mais le point le plus important que je voulais signaler, c'est que le GBGC, il a une autre conséquence fondamentale, c'est qu'il va interférer avec la sélection. Alors, pourquoi ça? pour vous expliquer ça, ce que j'ai représenté ici, c'est la probabilité de fixation d'une mutation en fonction du coefficient de sélection qui opère sur cette mutation. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est la probabilité de fixation relativement à la probabilité de fixation d'un allèle neutre. D'accord ? Donc, un allèle neutre, et c'est là, on est à 0. Donc, on a une probabilité de fixation relative qui est de 1. Donc, les mutations qui sont délétères, eh bien, elles ont une probabilité plus faible de se fixer dans la population. Et inversement, les mutations qui sont avantageuses, elles ont une probabilité plus forte de se fixer dans la population. Donc ça, c'est la relation qu'on s'attend à observer si on n'a pas de GBGC. Maintenant, si on a du GBGC, alors le GBGC va diminuer la probabilité de fixation des mutations vers AT. Hein ? Alors ça va être vrai pour les mutations délétères, mais ça va être vrai aussi pour les mutations avantageuses. Et par contre, le GBGC va augmenter la probabilité de fixation des mutations vers GC. Et là encore, ça va être vrai pour les mutations bénéfiques, mais ça va être vrai aussi pour les mutations délétères. Et en fait, parmi les mutations qui ont un effet sur le phénotype, hein, parmi les mutations qui ont un effet sur la fitness, la grande majorité, ce sont des mutations délétères. Et donc, l'impact premier du GBGC, ça va être d'augmenter le taux de mutation, de fixation délétère vers GC. Alors, pour illustrer ce phénomène, j'ai choisi de vous présenter un exemple. C'est l'exemple du gène FXY. Et chez la souris, ce gène-là, il a été transloqué dans la région pseudo-autosomale du chromosome X. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la région pseudo-autosomale. Donc, chez les mammifères, chez les mâles, donc on a le chromosome X et le chromosome Y, et il y a une courte région à l'extrémité de ces deux chromosomes qui est homologue, hein, qu'on appelle la région pseudo-autosomale. Et chez les mâles, à chaque méiose, il doit y avoir au moins un crossover dans cette région pseudo-autosomale. Et donc la région pseudo-autosomale est la région du génome dans laquelle le taux de recombinaison est le plus fort chez les mâles. Et donc chez la souris, il se trouve que ce gène-là, FXY, il a été transloqué précisément à la frontière entre la région pseudo-autosomale, hein, qui s'appelle PAR, pseudo-autosomal region, et la région spécifique du X. Donc les trois premiers exons de ce gène sont dans la région X spécifique, et les autres exons, la fin du gène, est dans la région pseudo-autosomale. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la région pseudo-autosomale, le taux de recombinaison est extrêmement élevé, alors que dans la région X spécifique, ben, le taux de recombinaison il est normal. Et donc, si on regarde la composition en base de ce gène-là, sur les positions synonymes, ce qu'on voit, c'est que ben, dans les trois premiers exons, là où le taux de recombinaison est normal, ben, le taux de GC il est de 55%. Ça correspond à la moyenne sur l'ensemble du génome. Donc là, rien d'inhabituel. Mais par contre, dans la région, dans l'extrémité 3' du gène, là où le taux de recombinaison est très fort, eh bien, le taux de GC en position synonyme il est de 90%, donc extrêmement élevé. Donc ça, c'est précisément ce à quoi on s'attend si le BGC augmente le taux de GC là où le taux de recombinaison est fort. Donc là, c'est pour des changements synonymes. Bon, ça n'a pas trop d'impact. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de la séquence en acide aminé de la protéine qui est codée par ce gène. Alors, on a analysé l'évolution de ce gène-là chez ces quatre espèces, hein, donc l'homme, le rat, la souris Mus pretus et la souris Mus musculus. Et donc, dans les trois premières espèces, le gène FXY, il est localisé intégralement dans la partie X spécifique du chromosome X, donc là où le taux de recombinaison est normal. Par contre, chez Mus musculus, comme je vous l'ai déjà dit, ce gène il a été transloqué à la frontière avec la région pseudo-autosomale, et donc il est à cheval sur la région pseudo-autosomale. Donc si je regarde la partie 5' du gène, la partie qui est représentée ici en jaune, donc chez tout le monde, cette région-là du gène est, subit un taux de recombinaison normal au cours de toute cette histoire évolutive. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, il y a eu deux changements d'acide aminé dans cette branche-là, un changement dans cette branche-ci, 0 là, 1 là, 0 là. Bon, rien de spécial. Maintenant, regardons la partie rouge du gène, là. La partie rouge, donc, dans toute cette partie-là de l'arbre, cette zone-là en bleu, donc dans toute cette partie de l'histoire évolutive du gène, le gène se trouve dans une région où le taux de recombinaison est normal. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit une substitution là, 0 là, 3 ici, 1 là. OK, rien d'inhabituel. Mais dans cette petite branche-là, là où, qui correspond à la branche où le gène a été transloqué dans la région où le taux de recombinaison est élevé, là, on a 28 changements d'acide aminé. Et ces 28 changements d'acide aminé, ils sont tous dus à des mutations de AT vers GC. Donc, vous voyez, une accélération extrêmement forte. Là, on multiplie par 300 le taux de substitution en acide aminé, spécifiquement dû à l'accumulation de substitution de AT vers GC, et spécifiquement dans la partie du gène où le taux de recombinaison est fort. Et ce gène-là, par ailleurs, il est soumis à une forte sélection négative. Et donc, l'explication la plus parcimonieuse pour expliquer ça, c'est que ces 28 substitutions, en fait, c'est des mutations qui sont délétères, qui normalement auraient dû être éliminées par la sélection naturelle, mais qui ont été poussées à fixation par le processus de GBGC. Donc là, c'est un exemple typique qui illustre le fait que le GBGC peut interférer avec la sélection naturelle et des mutations qui normalement auraient été éliminées, eh bien là, elles sont poussées à fixation par le processus de GBGC. Donc, deuxième message important que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, c'est que le GBGC, c'est un phénomène qui interfère avec la sélection. Et Sylvain Gleyma a conduit des études théoriques qui ont démontré que le GBGC augmente le fardeau mutationnel dans les espèces. Et par ailleurs, on a mené des analyses de données empiriques qui ont montré qu'effectivement, le GBGC contribue à la fixation de mutations délétères. Donc on l'a vu ça à l'échelle de l'évolution des mammifères, mais on a vu ça également en analysant le polymorphisme au sein des populations humaines, et où on a observé que le GBGC contribue à la propagation d'allèles délétères dans les populations humaines. Alors, en principe, je suis censé attaquer une troisième partie de mon exposé, mais j'ai encore du temps ? D'accord. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé uniquement de mammifères, hommes, souris. Qu'est-ce qu'on sait de la distribution phylogénétique de ce processus-là ? Quelles sont les espèces qui sont soumises au GBGC ? Alors, donc chez les vertébrés, donc, je vous ai parlé déjà des mammifères. Il y a des études, notamment par l'équipe de Molly, mais aussi par d'autres, qui ont montré qu'il y a du GBGC chez les oiseaux. Chez les insectes, il a été montré par Valberg et collaborateurs que chez les abeilles, il y a du GBGC qui est très fort. Par contre, chez la drosophile, en tout cas Drosophila melanogaster, le GBGC est faible, nul ou au plus très faible. Et donc, donc on avait des données provenant de quelques clades qui nous disent que voilà, il y a des différences entre clades. Et donc nous, on a décidé avec Nicolas Galtier d'explorer de façon un peu plus générale quelle est la prévalence de ce processus à l'échelle des métazoaires. Et donc Nicolas Galtier accumulé un jeu de données de polymorphisme chez près d'une trentaine d'espèces qui sont représentatives de toute la diversité des métazoaires, hein, donc des insectes, des mollusques, des échinodermes, des vertébrés, etc. Et donc des organismes très divers avec couvrant une large gamme de tailles efficaces. Et donc ils ont accumulé des données de séquençage en séquençant en fait des transcriptomes. Hein, donc en séquençant 6 à 10 individus par espèce. Et donc nous, à partir de ces données-là, on a cherché des signatures de recombinaison en utilisant un test qu'on appelle le test des 4 gamètes. Je vais passer rapidement là-dessus, peu importe l'idée. L'idée, c'est simplement que ça nous permet d'avoir une mesure du taux de recombinaison. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des gènes pour lesquels on avait des données de polymorphisme Et puis, on les a regroupés par classe de taux de GC. Et pour chacune de ces classes, on a calculé un taux de recombinaison moyen. Et donc, il y a certaines espèces, comme ce vert-là. Donc, ce qui est représenté ici, c'est la relation entre le taux de GC des gènes et le taux de recombinaison. Et donc, on voyait, il y a certaines espèces chez lesquelles on observe une corrélation positive forte entre le taux de GC et le taux de recombinaison. Donc, ça, c'est voilà, une signature typique de ce à quoi on, ça correspond à ce à quoi on s'attend chez des espèces qui ont du GBGC. Et puis, chez certaines autres espèces, comme cette sèche-là, ben, vous voyez, il n'y a pas de relation entre les deux paramètres. Hein, donc, voilà. Dans certains cas, on voit une corrélation, dans d'autres, on ne voit pas. Et donc, globalement, quand on regarde les 29 espèces qu'on a pu analyser, eh ben, parmi ces 29, il y en a 25 chez lesquelles on observe une corrélation significative. Et dans tous les cas, cette corrélation, elle est positive. Il y a une seule espèce chez laquelle on a détecté une corrélation négative, mais elle n'est pas significative. Donc, vous voyez, ça veut dire que voilà, chez une majorité d'espèces, on a une corrélation positive entre GC et recombinaison. Alors, ce n'est pas la preuve que c'est du GBGC, mais disons, ça correspond à la signature attendue si, effectivement, il y a du GBGC. La deuxième chose qu'on a faite, c'est utiliser les données de polymorphisme pour estimer le coefficient de GBGC, grand B, à partir des spectres de fréquence allélique, hein, comme je vous l'avais présenté tout à l'heure. Et en même temps, ça nous permet également de quantifier le biais mutationnel. Et donc ça, c'est le travail de Marjolaine Roussel, une étudiante de Nicolas. Et ce qu'elle a observé, c'est que dans 84% des espèces, on a un coefficient de BGC qui est significativement positif. Donc, on a, vous voyez, une grande proportion des métazoaires chez lesquels on détecte du GBGC. Mais ce n'est pas tous, hein. Il y a des exceptions, il y a des espèces chez lesquelles on ne détecte pas de GBGC. Une chose qui est assez intéressante à remarquer quand même, c'est que la gamme de variation de grand B, elle est assez limitée. J'ai représenté la distribution ici, vous voyez, la distribution, on est essentiellement entre 0 et 2. Donc, on a 75% des espèces qui ont des valeurs de grand B qui sont entre 0,25 et 2, donc des valeurs de grand B qui sont relativement... Enfin, une gamme de variation de grand B qui est relativement limitée. Alors, on peut se demander, à quoi on s'attend, en fait? Quelles sont les causes de variation de l'intensité de GBGC entre espèces? Eh bien, a priori, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait une covariation entre grand B et la taille efficace. Hein, parce que je vous rappelle que grand B, hein, le paramètre grand B, c'est 4 fois NE, 4 fois la taille efficace, fois G, le taux de conversion, et B, le biais de réparation. Donc, comme grand B, c'est une fonction directe de la taille efficace, on s'attendait à ce qu'il y ait une covariation entre grand B et NE. Alors, on n'a pas une mesure directe de NE, mais ce qu'on peut mesurer, c'est le polymorphisme. Et le polymorphisme, c'est égal à 4 fois NE fois le taux de mutation. Et donc, ce qui est représenté ici, c'est la relation entre grand B, donc 4 fois NE fois petit g petit b, et versus le polymorphisme mesuré sur les positions synonymes, donc pas affectées par la sélection. Donc ça, c'est 4NE fois le taux de mutation. Et donc, vous voyez que il n'y a pas de relation entre les deux. Alors, on sait que le taux de mutation, il varie entre espèces, mais il ne varie pas énormément à l'échelle des métazoaires. D'après les données qui ont été publiées par Lynch, les valeurs de grand mu du taux de mutation varient de l'ordre de 10-8 chez les espèces qui ont des faibles tailles efficaces à l'ordre de 5-10-9 chez les espèces à fort taille efficace. Donc ça veut dire que ici on a des tailles efficaces qui varient de l'ordre de 10 puissance 4 pour les plus faibles à 10 puissance 6 pour les plus fortes. Donc on a un facteur 100 de taille efficace dans notre jeu d'écart de taille efficace dans notre jeu de données. Donc on a un facteur 100 de variation de taille efficace, mais vous voyez, on a peu de variation de grand B. Et donc, si pour expliquer que grand B n'augmente pas quand N augmente, eh bien, la seule explication, c'est que eh bien, quand N augmente, eh bien, le paramètre G fois B, lui, il doit diminuer. D'accord ? Donc le taux de conversion, le taux de le coefficient de BGC, là, donc le produit petit g fois petit b, il doit diminuer quand N augmente pour expliquer qu'on a ce patron-là. Et effectivement, alors, il n'y a pas de. Pour le moment, il y a peu d'espèces, il n'y a que trois espèces chez lesquelles on a pu mesurer directement le biais de transmission, hein, donc la levure, l'oiseau gomme-mouche et l'homme. Et effectivement, chez la levure, le biais, il est très faible. Hein, et là où il est le plus fort, c'est chez l'homme. Et ben voilà, il se trouve qu'effectivement, les tailles efficaces sont beaucoup plus fortes chez la levure que chez l'homme, et c'est intermédiaire chez le gobe-mouche. Alors bon, avec seulement trois espèces, c'est dur de tirer des conclusions fortes, mais voilà, c'est un petit peu notre hypothèse de travail que peut-être qu'il y a des contraintes qui empêchent d'avoir un petit b trop fort dans les espèces qui ont des grandes tailles efficaces. Alors, voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, on peut imaginer qu'il y a des contraintes sur les systèmes génétiques. Hein, donc, le grand b, le coefficient BGC, il dépend du biais de réparation des mismatchs. Il dépend du taux de conversion génique, qui lui-même dépend du taux de recombinaison et de la longueur des tracts de conversion. Donc tous ces paramètres-là, tous ces facteurs-là, ils sont déterminés génétiquement. Il y a un déterminisme génétique de la machinerie de réparation, de la machinerie de recombinaison. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des contraintes sélectives sur ces paramètres-là pour éviter un fardeau mutationnel trop fort dans les espèces qui ont des grandes tailles efficaces. Donc ça, c'est... Je mets des gros points d'interrogation, parce qu'à ce stade-là, on est vraiment... c'est de la pure spéculation, hein. C'est des hypothèses de travail sur lesquelles on est actuellement en train d'essayer d'avancer. Alors, ça nous amène en fait à cette question-là, mais en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il y a du GBGC ? Pourquoi est-ce que la machinerie de réparation est biaisée vers GC ? Hein, quelle est la raison d'être de ce phénomène ? Alors, une observation qui permet peut-être de proposer une hypothèse, c'est que dans la plupart des espèces, et c'est vrai en particulier chez les métazoaires, le patron de mutation, il est biaisé vers AT. Donc là, ce que j'ai représenté ici, c'est la relation entre donc, l'équilibre mutationnel, hein, donc le taux de GC prédit par les patrons de mutation, et le taux de GC réel des séquences, hein, donc là, pour les 29 espèces qu'on a analysées, hein, donc 29 métazoaires. Donc vous voyez que chez pas mal d'espèces, on constate que le taux de GC des gènes est nettement plus élevé que ce qui est attendu d'après l'équilibre mutationnel. C'est-à-dire que chez la plupart des espèces, l'équilibre mutationnel tend vers un taux de GC qui est bas, bien plus bas que le taux de GC des gènes. Et donc, voilà, ça nous dit voilà, il y a un biais de mutation vers AT chez la plupart des espèces. Et du coup, notre hypothèse, c'est qu'en fait, le biais de réparation vers GC aurait pu évoluer pour compenser le biais mutationnel vers AT. Alors, ce n'est pas une hypothèse qui sort totalement de nulle part. Hein. Notamment, on sait que chez les vertébrés, et en particulier chez les mammifères, la méthylation de l'ADN provoque une hypermutabilité des cytosines. Hein. Donc, les cytosines qui sont méthylées, elles sont hypermutables. Hein. Et chez les mammifères, la méthylation des cytosines, elle se produit spécifiquement sur les cytosines qui sont des dinucléotides CG, là, qu'on note CPG. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ben, chez les vertébrés qui subissent cette méthylation de l'ADN au niveau des CPG, eh bien, ont évolué des systèmes de réparation spécifiquement dédiés à la réparation des mismatchs au niveau des CPG. Hein, donc, c'est de la réparation par des thymine DNA glycosylase, hein, donc qui sont impliqués dans le système qu'on appelle BER, Base Excision Repair. Hein, donc, ils sont spécifiquement qui ciblent spécifiquement la réparation des mismatchs, des mutations au niveau des CPG. Donc ça nous dit que, oui, que l'évolution peut effectivement jouer sur les machineries de réparation pour compenser un biais mutationnel. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin pour tester cette hypothèse, c'est que ben, si effectivement le biais de réparation a évolué en réponse au biais mutationnel, ben, peut-être qu'on peut s'attendre à avoir une corrélation entre ce biais de réparation et l'intensité du biais mutationnel. Et donc, on a voulu regarder s'il y a une corrélation entre petit b et l'écart entre petit b et le biais mutationnel. Alors, petit b, c'est difficile à mesurer directement, mais par contre, ce qu'on peut estimer, c'est ce qu'on peut mesurer facilement, c'est le rapport entre grand B et le polymorphisme, qui correspond au rapport entre le coefficient de BGC, là, petit g fois petit b, divisé par le taux de mutation. Donc, on a mesuré ça. Et ce qu'on voit, c'est que au sein de nos 29 espèces, on a effectivement une relation significative entre ce ratio-là, là, hein, donc le coefficient de BGC divisé par le taux de mutation, et le biais mutationnel, hein, qui suggère que le coefficient de BGC est plus fort dans les espèces chez lesquelles le biais mutationnel vers AT est plus fort. Donc, pour conclure, ça va être la conclusion finale de mon topo, le GBGC, c'est un phénomène qui est répandu chez les mammifères, hein, pas dans toutes les espèces, mais dans une grande majorité des espèces. Et par ailleurs, alors là, je n'ai pas eu le temps du tout d'aborder ça, mais on a également des preuves directes qu'il y a de nombreuses autres lignées qui sont affectées par ce processus-là, non seulement chez les eucaryotes, mais aussi chez les prokaryotes. Parce que même s'il n'y a pas de méiose chez les prokaryotes, il y a quand même de la recombinaison homologue. Et voilà, on a des observations préliminaires qui suggèrent que le biais de réparation vers GC pourrait avoir évolué en réponse à un biais mutationnel vers AT, et possiblement en lien avec la méthylation de l'ADN. Et le dernier point important, c'est que chez la plupart des espèces, grand B reste dans la zone du quasi-neutre, hein, reste proche de 1. Hein, et ça, voilà, ça nous suggère qu'il pourrait y avoir des contraintes sélectives sur les systèmes génétiques pour limiter le fardeau mutationnel causé par le GBGC. Donc, pour terminer, voilà, la recombinaison, dans la plupart des textbooks, des ouvrages classiques qui parlent de la recombinaison, de pourquoi est-ce qu'il y a de la recombinaison, pourquoi est-ce que le sexe existe, eh bien, on insiste sur les aspects positifs de la recombinaison, hein, le fait que la recombinaison contribue à maintenir de la diversité génétique et donc augmente l'efficacité de la sélection et donc permet de préserver le potentiel adaptatif des populations. Mais il y a aussi une face cachée de la recombinaison et le fait que des distorsions de ségrégation causées par le BGC interfèrent avec la sélection et donc contribuent au fardeau mutationnel. Voilà. Et pour finir, je voulais remercier les nombreux collègues qui ont contribué à tous les résultats que je vous ai présentés. Voilà, merci.